avant-dernière tendance générale qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui a été parfois appelé sous le terme de autogestion généralisée de la vie quotidienne. C'est qu'aujourd'hui, les questions politiques, tout ce dont on vient de parler jusqu'à présent, les questions politiques sont conçues de manière différente. Ou plus exactement, il y a une redéfinition du politique ou de la politique. Les questions d'urbanisme, les questions de logement, les questions de transport, bien, qui sont des questions de vie quotidienne concrètes, les questions de la bouffe, de la qualité de la consommation, les questions des espaces verts, la pollution par exemple, hein, l'écologie. Eh bien, toutes ces questions-là, qui jusqu'à présent, pour certaines tendances du mouvement ouvrier, étaient considérées comme des questions apolitiques ou parapolitiques, et de toute façon secondaires, eh bien, de plus en plus de gens, de militants, d'organisations politiques, d'associations syndicales, tendent au contraire à croire que les vraies questions politiques, celles qui en dernière analyse concernent immédiatement les gens, ce sont celles de la vie quotidienne. Transformer le monde, changer la vie, vous connaissez ce célèbre mot d'ordre de mai 68, bien, transformer le monde, disait Marx, changer la vie, disait Rimbaud, ça veut dire, et d'ailleurs ça a été récupéré, j'ouvre une parenthèse, ça a été récupéré par la bourgeoisie réformiste, qui disent qu'il faut une nouvelle qualité de vie, il faut changer les rapports humains, etc., ou même par les réformistes en général, le mot d'ordre de changer la vie, hein, comme ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais enfin, tous les cas, c'est clair. Le fait même que des tendances libérales de la bourgeoisie, libérales tout à fait, entre guillemets, ou que des tendances réformistes du mouvement ouvrier se sentent obligées de prendre en compte, y compris de manière programmatique, cette redéfinition de l'objectif final prouve que les gens aujourd'hui ont une autre conception, disons, c'est une tendance d'ensemble, hein, ont une autre conception du politique ou de la politique, entendue jusqu'à présent traditionnellement comme prise du pouvoir, nationalisation, plus de pain, plus de liberté, etc. C'est-à-dire que la politique, entre autres termes, et ça, un militant marxiste et à la fois psychanalyste, comme Wilhelm Reich a été un des premiers dans les années 30 à expliquer que les masses luttaient non pas pour abattre le capitalisme en général, pour éliminer le processus de production de la plus-value, bien, ou, a fortiori, pour des jeux diplomatiques qui sont tout à fait en dehors d'eux, au-dessus d'eux, dans une sphère étrangère, autonomisée, là, qui plane quelque part, l'État, Dieu, l'économie, la croissance, les relations diplomatiques, la paix, le bonheur, enfin, pas le bonheur, disons, le socialisme en général, toutes ces abstractions qui flottaient là au-dessus d'eux, non, les masses, disait Reich, luttent pour transformer leur propre vie quotidienne collectivement, et d'ailleurs aussi individuellement, parce que je pense que beaucoup de militants viennent à la vie politique parce qu'individuellement, ils ne se sentent pas à l'aise dans cette société, bien, et d'ailleurs c'est une très bonne chose que les gens, mais personnellement, pour lutter politiquement, ce sera une question d'ailleurs qui sera à l'ordre du débat tout à l'heure, la liaison entre vie privée et vie politique, hein, qui fait aussi partie des superstructures, et donc les gens luttent, disait Reich, pour une autre vie quotidienne. Reich osait même dire, malgré l'aspect idéaliste de la chose, pour un autre bonheur. Parce que, je répète encore une fois, les questions de la mort, de la sexualité, du bonheur, c'est des questions qui nous traînent dans la tête, même si pour des raisons diverses, on aurait tendance à penser que c'est de la métaphysique, c'est des questions. Mais chacun d'entre nous devra crever, hein, chacun d'entre nous a des relations sexuelles de telle ou telle manière, etc., etc. Et puis chacun d'entre nous doit bricoler sa vie quotidienne. Bon. Donc, ce qui est décisif dans cette affaire-là, c'est que les gens veulent dorénavant, tant au niveau des travailleurs salariés, qu'au niveau des jeunes, qu'au niveau des femmes, qu'au niveau des chômeurs, qu'au niveau des immigrés, que des soldats, etc., prendre en main leurs propres affaires, d'où tous les comités autonomes de lutte, comités de soldats, comités de femmes, comités de chômeurs, comités d'immigrés, les différents mouvements spontanés de la jeunesse qui se créent ici et là. C'est-à-dire, veulent gérer eux-mêmes leurs propres affaires et veulent prendre en main leur propre vie quotidienne pour changer non seulement leurs relations sociales, mais aussi la société. Je pense que le terme d'autogestion généralisée de la vie quotidienne, malgré l'aspect ambigu de la formule, signifie une tendance historique profonde et progressiste. Pour terminer, la question qui du point de vue politique est posée ici, si on pense qu'à travers tous ces éléments, ces tendances, il y a des aspects communs qui forment, disons, un aspect nouveau, dans la réalité sociale et politique. La question se pose dès lors pour un mouvement politique des alliances de classe, puisqu'encore une fois, il me semble vous l'avoir, disons, précisé au fur et à mesure, parmi les femmes, parmi les travailleurs en général, y compris les travailleurs salariés, parmi les jeunes, parmi les soldats, par exemple, parmi les sportifs, bien, parmi les urbanistes, parmi les écologistes, enfin, tous ces gens-là qui bougent sur ces terrains-là, il n'y a pas que des travailleurs salariés, et il n'y a même pas que des travailleurs productifs au sens marxiste du terme. Il y a d'autres couches et classes sociales. Et la question qui est posée, c'est une question politique, disons, qui est en débat, hein. La question qui est posée, c'est celle d'une politique d'alliance de classe sur un programme de révolution socialiste, sur un programme, disons, fondamental, projet de société socialiste, de manière à ce qu'au moins pendant une période transitoire, ces gens-là forment bloc sur un projet socialiste aux côtés du prolétariat. Parce que bien évidemment, la question de l'écologie, la question de l'école, la question de la santé, la question de l'urbanisme, etc., ne concerne pas uniquement la classe ouvrière. Ne serait-ce que la question de la consommation, par exemple. Donc la question est posée d'un programme d'alliance de classe. Je précise tout de suite qu'il ne veut pas dire collaboration de classe. Hein. Parce qu'en général, l'entourloupette consiste à dire, de la part des staliniens et des réformistes, hein, alliance de classe, d'accord, ça veut dire alliance avec tel ou tel ou tel, que vous savez aussi bien que moi, c'est-à-dire collaboration de classe. Une alliance de classe signifie hégémonie politique du prolétariat. Et en particulier, dans toutes les questions qu'on appelle les nouveaux fronts de lutte, à l'école par exemple, dans les lycées, il n'y a pas que des fils de travailleurs dans les lycées, c'est bien évident. N'empêche que le mouvement révolutionnaire, le PSU en particulier, intervient à l'école sur une ligne politique, qui implique donc qu'on avance des mots d'ordre sur le terrain de la vie quotidienne qui concernent pas uniquement les travailleurs salariés. Ces fronts de lutte dits secondaires, la question est encore posée d'un programme, et je terminerai là-dessus, qui dit programme de lutte dit analyse claire de la situation, et on retrouve la question initiale que j'avais posée, savoir l'appropriation d'une méthode d'analyse des tendances nouvelles, car rien n'est pire pour le mouvement ouvrier et le mouvement révolutionnaire en général que de rester ossifié, sclérosé, dogmatique, voir les tendances autour de soi, voir les aspirations nouvelles, les besoins nouveaux, les désirs nouveaux, signifie écouter les masses. C'est un slogan aussi, bien entendu. Mais écouter les masses, ça veut dire, dans cette affaire-là, premièrement, anticiper ce qui est une tendance, et non pas rester à la traîne. En général, le mouvement ouvrier jusqu'à présent avait toujours, comme dirait l'autre, une guerre de retard. Bien. Il faut bien dire, pour prendre qu'un exemple, que le mouvement des jeunes, le mouvement des femmes, et y compris d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, le mouvement des soldats, eh bien, c'est fait assez en dehors. Bien entendu, il n'y a pas jamais de spontanéité. Hein. Il y a quand même des militants qui sont intervenus. Mais ça a été une tendance qui, pendant toute une période, était saisie avec méfiance par le mouvement ouvrier officiel, et même par certains courants révolutionnaires, ou dit-elle, le mouvement des femmes en particulier. Hein, le MLF, c'était des excès, c'était etc. Hein, les soldats, oulala, où allons-nous? Bien. Je dis donc, le rôle au niveau d'un programme socialiste, c'est d'anticiper ces tendances nouvelles de manière à pouvoir les intégrer et à lutter là-dessus. Et deuxièmement, je pense que c'est très important, dans le domaine qui nous concerne, de ne pas cracher dessus comme le font la plupart des bourgeois, sur l'utopie. Que disent ceux qui, comme Malraux, et puis d'autres, Pompidou, Giscard, puis prenez tous les ministres bourgeois actuels, hein, quand on leur parle de l'IP, quand on leur parle d'autogestion socialiste, mais c'est de l'utopie, pas possible. bien entendu. De même, la même manière qu'il n'était pas possible il y a 30 ans que la femme accouche sans douleur. Qu'il n'était pas possible il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, qu'elle puisse maîtriser la contraception, etc., etc. Ce n'était pas possible, c'était l'utopie. Bon. Et je dis donc, dans le domaine, encore une fois, des superstructures, du changer la vie, de la critique des institutions, il faut être excessivement sensible à toutes ces tendances utopiques. Je ne prendrai qu'un seul exemple et je terminerai vraiment là-dessus. Et Dieu sait si je ne suis pas d'accord avec ces gens-là, les surréalistes, les situationnistes. Bon, d'ailleurs, c'est valable pour les surréalistes aussi. Hein. Simple exemple, Salvador Dali, qui était un ancien surréaliste. Et on peut en prendre d'autres. Mais les surréalistes, et surtout les situationnistes, dans les années 60, leur ouvrage vient d'être republié là, ont pressenti, relisez cet ouvrage-là, mais ont pressenti des choses absolument démentielles. C'était vraiment prémonitoire. Bien. Le mouvement de la jeunesse, l'urbanisme, l'écologie, le mouvement des femmes, la critique du sport, un urbanisme alternatif, même la question des Halles. Même la question des Halles. Dans les années 60. Je dis donc que ces gens-là, la plupart des tendances du mouvement ouvrier, à forcerie du mouvement révolutionnaire, les considéraient vraiment comme des rigolos, on les traitait de sponto-situationnistes, d'anarcho-trucmuches, etc. C'était vraiment les gens marginaux, déviants. Certes, du point de vue politique, à mon avis, ils déconnaient complètement. Mais, dans le domaine des superstructures, dans le domaine de la vie quotidienne, un camarade qui s'appelle Henri Lefebvre, vous connaissez peut-être les ouvrages, qui s'appelle Critique de la vie quotidienne, hein, eh bien, ce militant marxiste, à lui, de concert d'ailleurs avec les situationnistes, pressentit ces tendances historiques nouvelles. La jeunesse, la mort, le corps, bien, le change quotidien. Je dis donc, en conclusion, il ne faut absolument pas mépriser l'utopie. Comme le disait Marcuse d'ailleurs dans Héros et Civilisation, en dernière analyse, ceux qui méprisent l'utopie sont réactionnaires. Parce qu'au bout du compte, on peut imaginer que l'histoire, c'est la réalisation progressive des utopies.
Bon, camarades, on va engager. Je vous rappelle que, pour les raisons qu'a expliqué Jean-Marie, l'exposé a été coupé en deux et que on verra dans le prochain élément. Peut-être tu peux donner quelques éléments, disons, de la prochaine fois pour ne pas mélanger la vision.
La fois prochaine, ce sera un aspect un tout petit peu plus théorique, quoique j'aime pas ce terme. Ça s'appellera élément de méthodologie, où je rappellerai premièrement l'acquis marxiste fondamental, et j'essaierai de le faire de la manière la moins dogmatique possible, en vous donnant des citations, parce que c'est nécessaire, c'est l'aspect didactique. Deuxièmement, et alors là, il y aura tout un développement sur, disons, le matérialisme historique. Hein. Deuxièmement, l'apport de Gramsci, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut réhabiliter, même encore en France, Gramsci, la reproduction économico-politique de la société, c'est Marx, la reproduction idéologique de la société, c'est Gramsci, la reproduction psychologique de masse de la société, c'est Reich, et la reproduction institutionnelle de la société, la socio-analyse. La socio-analyse, ou l'analyse sociale, mais c'est un terme, disons, qui est passé de mode, ça s'appelle la socio-analyse ou l'analyse institutionnelle.
Alors le débat, c'est évidemment aussi bien des questions aux camarades qui a parlé que des interventions, que des contradictions, que tout cela, c'est-à-dire qu'il y a une tentative d'approfondissement en vérité de l'ensemble.
Oui, il me semble qu'il y a une question, enfin c'est pas exactement sur, enfin c'est lié, c'est le lien avec la lutte politique générale. En effet, on s'aperçoit que toutes ces luttes dont tu as parlé, elles n'aboutissent pas pour l'instant à une globalisation, enfin effective politique, dans une lutte politique du prolétariat pour la prise du pouvoir. Et très précisément, elles n'aboutissent pas au recrutement d'un nombre appréciable de militants à travers toutes ces luttes nouvelles qui sont effectivement, comme tu l'as montré, extrêmement nombreuses et extrêmement importantes. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais simplement, je pose ce problème parce que tu ne l'as pas abordé. Je crois qu'il est très important. c'est qu'à travers toutes ces luttes sur les fronts dits secondaires, où un tas de gens ont lutté, il ne sort pas des militants ouvriers, il ne sort pas des militants pour un parti révolutionnaire, de même que globalement, il n'y a pas une fusion pour, dans une lutte politique globale du prolétariat pour renverser le pouvoir politique et économique de la bourgeoisie. Alors ça, je crois que c'est un problème très important et qu'on doit tenir compte aussi au premier chef dans la détermination du programme pour toutes ces couches.
Il y a d'autres camarades, on peut peut-être faire circuler les questions, les interventions pour...
Je vais me lancer aussi à l'eau. Étant assez d'accord avec l'ensemble des 5 points exposés, il y a malheureusement une contradiction qui me choque un peu. C'est quand tu as parlé de la nécessité pour les militants actuels d'avoir des éléments très solides en matière de sociologie, de psychanalyse, de ceci et de cela. D'abord, ça recouvre un aspect un peu élitiste, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. C'est aussi le débat du c'est un peu le même débat que le Parti révolutionnaire. Bon, on pourrait les relier, ces deux questions, par ce biais-là. Mais alors, la contradiction, elle m'apparaît lorsque tu as mis en avant le rôle considérable de la jeunesse. Et ce qu'il faudrait quand même souligner, c'est que la jeunesse n'est pas toujours de tous ces acquis. Il me semble qu'il y a là une contradiction, enfin, au moins une petite faille qu'il faudrait essayer d'éclaircir.
Il y a d'autres camarades où vous pensez qu'on peut déjà avoir un peu une discussion sur ces deux...
Tu as parlé de fabrique du mouvement marxiste dans le domaine de la superstructure. Et tu as conclu pratiquement ton exposé avec une volonté de réhabiliter l'utopie. Alors, est-ce que tu ne crois pas que dans ton esprit, réhabiliter l'utopie, c'est pas pareil à cette faiblesse théorique et se passer de la construction d'une théorie?
Il y a une camarade ici aussi. Ça, c'est l'objet phallique.
Je ne sais pas à quel degré les prolétariats français soient confondus, mais dans mon pays, si on parle des alliances des classes au prolétariat et on ne fait pas très attention d'expliquer quel type d'alliance des classes et avec et quel type de revendications on peut s'allier aux classes, ça peut apporter des confusions terribles.
Est-ce qu'il y a d'autres camarades qui voudraient prendre la parole maintenant? Oui, par ici. C'est très drôle ce truc, il se balade.
C'est une question qui recoupe un peu celle qui ont été posée tout à l'heure. Tu parles d'une appropriation théorique du socialisme scientifique. Et tu parles en même temps de l'étendre à la zone qu'il a laissée vacante, somme toute, c'est-à-dire à cette zone du malheur de vivre au quotidien, voire au lieu de formation d'utopie, etc. Alors, qui va faire cette extension? Est-ce qu'on va aussi autogérer? Et est-ce que ça va se faire toujours en termes de lutte de classe? Quand tu parles de la jeunesse, par exemple, comme nouvel agent social, tu es aussitôt obligé d'ajouter toi-même que la jeunesse n'est pas nécessairement orientée à gauche. Autrement dit, une classe d'âge n'est pas nécessairement une classe sociale. Alors, que devient à ce moment-là l'extension? Il me semble qu'il y a un amalgame qui est possible.
D'autres camarades? On peut peut-être... Là, il y a déjà beaucoup de choses. Peut-être on peut... répondre, reprendre un peu après. Jean-Marie, tu...
Non, vas-y, vas-y.
Oui, moi, j'avais demandé juste la parole pour répondre aux camarades à toi, oui, sur la question, en vérité, bon, on ne voit pas où tout ça, c'est bien joli, mais où est la prise du pouvoir? Et en quoi la prise du pouvoir est intéressée par l'ensemble de ces manifestations, bon, d'une crise, d'une contestation, en quoi, en gros, la contestation, c'est pas la révolution. Enfin, c'est un peu, disons, pour caricaturer, en creux, disons, la question que tu poses. Alors, ça anticipe, je crois, un peu, justement, sur pas les conclusions, ni de l'exposé de Jean-Marie, ni même du cycle dans son ensemble. Mais, disons, dans un certain sens, ça anticipe effectivement. C'est une manière, disons, je dirais, de poser la question qui, à mon avis, nie même le problème posé. Je crois que la perspective du rapporteur, comme de nous tous ici, c'est d'essayer de comprendre précisément cela par rapport à l'objet, disons, de notre militantisme révolutionnaire, qui est effectivement la destruction de la société capitaliste, et donc la prise du pouvoir par le prolétariat, et par la classe ouvrière en général. Seulement, je crois que tous ces aspects nouveaux nous obligent à une réflexion un peu plus approfondie sur ce qu'on appelle le pouvoir. En d'autres termes, je dirais d'une manière très ramassée, ça nous oblige à avoir une conception qui amène à la conception même de la politique, c'est-à-dire du pouvoir soit socialisé. Qu'en d'autres termes, le problème de la prise du pouvoir ne peut pas se résoudre, ne peut pas se résumer à la question de la prise du pouvoir d'État. Ou du moins, à condition d'avoir une conception de l'État beaucoup plus ample, pas simplement que le gouvernement, bien entendu, mais ni même que simplement l'appareil répressif de la bourgeoisie sur le prolétariat. Ou du moins encore d'avoir une conception de ce qu'est l'appareil répressif sur le prolétariat beaucoup plus ample que simplement l'armée et la police. C'est-à-dire, en gros, que l'appareil ou les appareils qu'emploie la bourgeoisie pour faire en sorte que les travailleurs acceptent l'exploitation, c'est aussi un appareil répressif qui n'est pas l'appareil répressif direct, disons, qu'on a rencontré par exemple vendredi dernier devant l'ambassade d'Espagne. En d'autres termes, je crois qu'on devrait se poser la question d'une manière nouvelle, la question de la prise du pouvoir. Moi je crois, c'est pas encore d'ailleurs formulé d'une manière qui me satisfasse sur le plan théorique, mais je crois que pour que les travailleurs comprennent la nécessité de la destruction de l'appareil d'État bourgeois, que nous, ici, en étudiant le marxisme, l'histoire du mouvement ouvrier, on peut comprendre et on peut dire oui, il faut détruire l'appareil d'État bourgeois. Mais enfin, si tous les travailleurs le comprenaient, là, on n'en discuterait même pas, ce serait fait. Alors, comment faire en sorte que la masse des travailleurs arrive à cette conclusion que oui, pour changer la vie, il faut détruire l'appareil d'État bourgeois? Eh bien, je crois, c'est en montrant que le pouvoir, disons, c'est aussi des pouvoirs. Et des pouvoirs qui existent à tous les niveaux de la société. Des pouvoirs de domination dans les relations humaines, des rapports de force qui n'existent pas simplement entre les classes, mais entre les individus dans un couple, dans une relation humaine, dans une organisation, dans une salle, dans tout ce qu'on veut. Qu'il y a des pouvoirs, et pas simplement le pouvoir. En plus exactement que le pouvoir, c'est quelque chose qui unifie, qui globalise, qui organise toute une série de pouvoirs à tous les niveaux de la société, dans les différentes institutions qui forment une société. Nous partons dans ce cycle de l'idée que la société capitaliste, c'est pas simplement une machine de production. Ça ne sert pas simplement à produire de la marchandise. Ça sert aussi à produire des gens pour produire cette marchandise et pour acheter cette marchandise. Et dans ce cycle proprement dit, nous nous intéressons particulièrement à ces aspects en amont et en aval, disons, de la production. Mais sur ce terrain-là, et je crois que l'exposé de Jean-Marie, cette première partie, a montré qu'il y avait de quoi étudier, si on veut le relier au problème de la prise du pouvoir, alors on doit concevoir que la politique, puisque la politique c'est le pouvoir, c'est pour le pouvoir, que la politique doit elle aussi être socialisée. Que si par exemple sur le terrain des revendications, on a une réflexion sur le thème nationalisation ou socialisation des moyens de production. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit simplement de changer les rapports de propriété, ou bien est-ce qu'il s'agit aussi simultanément de transformer les relations sociales de production? Eh bien, sur le plan de la vie quotidienne, sur le plan de ce que j'appelais l'amont et l'aval de la production, c'est-à-dire produire des gens pour faire cette production et produire des gens pour absorber cette production, eh bien, on doit se poser le même problème. Et on doit dire, la politique sur le pouvoir est aussi quelque chose qui, du point de vue de la conception et de ce qu'on en tire pour l'activité politique, pour le programme, pour la lutte, doit être aussi socialisé. Le pouvoir, c'est aussi des pouvoirs. Et c'est dans la mesure, précisément, où les travailleurs, dans leur activité autonome, prennent des pouvoirs, qui construisent leur propre pouvoir, et que ce pouvoir s'oppose au pouvoir de la bourgeoisie. Ce qu'on voit, ce qu'on a vu au Chili ou ce qu'on voit au Portugal, et qu'on appelle le double pouvoir,
ou le développement du double pouvoir, si les travailleurs forment des commissions de travailleurs, ou des commissions d'habitants, ou des coopératives agraires, ils ne les forment pas en disant « Bon, ils nous font la bourgeois, alors comment est-ce qu'on va faire si on faisait une commission de travailleurs ?» Non, pour une commission de travailleurs pour résoudre les problèmes qui se posent et qui sont des problèmes déjà de pouvoir. Et en réglant ces problèmes de pouvoir au plan de l'entreprise, au plan du quartier et à tous les autres plans qu'on peut imaginer, ils commencent déjà à poser les bases de la résolution du problème du pouvoir. Et je crois que c'est pour ça que je disais au départ que la manière dont tu posais la question, c'était oublier, disons, d'un trait de plume un peu, la nécessité de réfléchir. C'est que l'objectif de la prise du pouvoir ne peut pas être séparé abstraitement, d'une manière livresque, je dirais, ou théorique, du problème concret de comment les travailleurs prennent le pouvoir. Et pourquoi est-ce qu'ils le prennent? Et pourquoi est-ce qu'ils veulent le prendre? Ou pourquoi est-ce qu'ils peuvent le prendre? Et je crois que précisément l'objet de la discussion, parce que je ne vais pas m'étendre dans la réponse plus que ça, l'objet de notre discussion et de l'ensemble du cycle, c'est de montrer justement qu'il y a des luttes de pouvoir nouveaux, des luttes nouvelles de pouvoir, qui se développent dans des niveaux de la société où ce n'est pas exactement le pouvoir qui est en jeu, où le problème du pouvoir ne sera pas résolu, mais où pourtant c'est aussi la question d'un certain pouvoir qui est posée et qui demande à être résolu par les formes justement autonomes d'activité que prennent l'ensemble des catégories sociales, des agents sociaux dont on a parlé ce soir. Alors, je ne sais pas, j'ai le sentiment évidemment que ça ne répond pas à ta question parce que ta question mériterait une réponse politique et programmatique. Un, ce n'est pas l'objet du Centre populaire de formation, disons, de la donner, on peut en discuter pour savoir comment la dégager, mais c'est plutôt l'objet d'une organisation politique, précisément. Et deux, je crois que ça anticipe beaucoup sur le développement même de notre discussion sur des problèmes qui, malgré tout, faut l'avouer, n'ont jamais été abordés sérieusement par le mouvement ouvrier en tant que collectivité. Il y a des individus qui ont eu des intuitions. Et aujourd'hui, et je crois que Jean-Marie l'a montré, on est confronté à une chose qu'on ne peut pas ne pas aborder. Tu voulais voir ici.
Précisément, la fois prochaine, à propos de Gramsci, à propos de Reich, on essaiera de démontrer ce que vient de dire Maurice, à savoir, pour répondre à toute une série de questions qui ont été posées sur la question du pouvoir politique, des alliances de classe, du programme socialiste autour de l'hégémonie du prolétariat, de la prise du pouvoir en somme, de l'abolition de la domination de classe de la bourgeoisie. C'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, que la domination de classe de la bourgeoisie n'est pas uniquement liée au niveau de l'appareil d'État, forcerie du gouvernement, mais comme on essaiera de l'expliquer à propos de Gramsci, de Reich, il y a un aspect d'hégémonie de la bourgeoisie. La domination de classe de la bourgeoisie s'exerce, Gramsci le montre, aussi bien par exemple au niveau de la famille, au niveau du sport, des masses médias. Gramsci va même jusqu'à dire que les plaques dans les rues, que les cimetières, bien l'ordonnance des cimetières, etc., indique la prise de pouvoir de la bourgeoisie dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et d'ailleurs, ce qui est difficile dans les pays capitalistes avancés, comme l'explique Gramsci, bien, c'est précisément la prise de pouvoir, parce que la bourgeoisie a tissé toute une série de relations sur l'ensemble du corps social qui fait qu'elle est absolument hégémonique. Ça, on le trouve déjà chez Marx, l'idéologie bourgeoise est l'idéologie dominante. Mais elle est dominante, y compris dans les relations sexuelles. Et que la bourgeoisie reproduit sa domination dans les relations de couple, dans l'oppression de la femme, dans la pratique du sport de compétition, etc. etc. Bien. Ça, c'est un premier point, on approfondira la fois prochaine. Hein. C'est-à-dire cette notion d'hégémonie. Et je crois qu'un mouvement révolutionnaire doit comprendre absolument qu'en attaquant l'école, qu'en attaquant le sport de compétition, il affaiblit objectivement le pouvoir de la bourgeoisie. Ça, c'est un premier point. Et ça, c'est vraiment ce qui est en objet du débat. Alors, il y a toute une partie de camarades qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est ce dont il faut discuter. Nous pensons, Maurice et moi en tous les cas, hein, pensons qu'effectivement, la domination... Je ne sais pas, moi je ne t'écoute pas. Nous pensons en tous les cas, ça je crois qu'il faut se mettre ça dans la tête, que le pouvoir de la bourgeoisie, c'est une prise de pouvoir mais comme le disait un philosophe Michel Foucault, une prise de pouvoir qui s'exerce y compris au niveau du corps. Lorsqu'on abordera cette question-là, le mort saisit le vif, mais y compris au niveau du corps. C'est-à-dire que la domination de la bourgeoisie, c'est une manière, par exemple, de donner le biberon, c'est une manière de se tenir droit, c'est une gestuelle, etc., etc. Je crois que c'est très, très important. Bref, de comprendre les effets d'intériorisation du pouvoir bourgeois dans la tête des individus, au niveau de la cristallisation des institutions, au niveau des relations sociales. Premier point. Maintenant, sur la question du programme politique, je pense, si tu veux, que tout au moins ici, tout le monde est d'accord que la révolution socialiste ne fera pas l'économie de la prise de pouvoir révolutionnaire. C'est-à-dire que la domination de la bourgeoisie, elle ne s'abattra pas comme ça, progressivement, petit à petit, en grignotant. Non. Il est vrai que le noyau concentré de la bourgeoisie, c'est l'appareil d'État. Du pouvoir de la bourgeoisie, c'est l'appareil d'État. Et que donc un programme politique doit se poser cette question de la prise du pouvoir d'État et de sa destruction ultérieure. Bien. Mais un programme politique, c'est pour répondre à la camarade là, hein, un programme politique doit aussi se poser la question immédiatement de la réorganisation socialiste de la société. Et que par conséquent, les classes sociales ne disparaissant pas du jour au lendemain, sauf à imaginer un rêve anarchiste, au sens fort du terme, eh bien il y aura pendant toute une période, et y compris au niveau de la lutte politique, une question d'alliance de classe. Et je répète encore une fois, parce que je pense que ça n'a pas été entendu, alliance de classe, il faudra le préciser, et je pense que ce sera l'objet d'un autre débat, alliance de classe ne veut pas dire, surtout dans ce domaine-là, collaboration de classe. Ça veut dire projet politique de transformation socialiste de la société à partir des intérêts fondamentaux du prolétariat, mais auxquels peuvent s'associer d'autres couches ou classes sociales. Je pense, par exemple, que les médecins, si le prolétariat n'arrive pas à gagner une fraction importante des médecins à un projet socialiste, eh bien la santé risque effectivement d'être une santé bourgeoise. D'ailleurs, ça s'est vu historiquement en Union soviétique et notamment en Chine. Bien, en Union soviétique et en Chine, il y a eu effectivement réintroduction de pratiques bourgeoises, pour une chose que je connais bien, par exemple le sport. Bien. De même, au niveau des psychiatres, au niveau des enseignants qui ne sont pas des prolétaires directement, bien, ces gens-là, du jour au lendemain, disparaîtront, des salariés en général. C'est-à-dire qu'à ces gens-là, au niveau d'un programme politique, on est obligé de leur fournir, dans le domaine de leur pratique sociale, parce que les professeurs, ils enseignent, les médecins, ils sont censés soigner, disons, bien. Dieu merci, tout le monde n'est pas réactionnaire parmi ces couches sociales-là, bien. Dieu merci, parce qu'autrement, on n'en serait pas là, bien. Parmi les urbanistes, parmi les magistrats, parmi les avocats, Donc, associer ces gens-là à un projet politique global de transformation socialiste de la société assure l'hégémonie politique du prolétariat et de ses intérêts de classe fondamentaux. Bien. Ça implique, comme le disait Lénine, je terminerai la réponse à ce niveau-là, une analyse de classe de la formation sociale. Parce que croire aujourd'hui dans une vision absolument manichéenne qu'il y a d'un côté le prolétariat qui est complètement misérabilisé et que de l'autre côté la petite méchante bourgeoisie, les monopoles, comme le dit le PC, c'est-à-dire 150 familles, ou 20, ou 100, ou 10, enfin bref, penser qu'entre les deux, il n'y a pas toute une série de stratifications sociales, d'institutions, que le prolétariat doit gagner à sa cause, eh bien, c'est une erreur politique profonde. Et Lénine expliquait, par exemple, dans un texte qui est fortement controversé, et qui, en général, a été mécompris, dans un texte qui s'appelle « Que faire ?». Dans « Que faire ?», Lénine a non seulement développé une théorie du centralisme démocratique, disons, hein, de l'orientation révolutionnaire, mais a développé aussi une théorie de la politique. Lénine explique que le peuple et ses représentants doivent aller dans toutes les couches et classes sociales d'agitation au compte du prolétariat, chez les médecins, parmi les artistes, parmi etc. Mais quand le PSU fait une fête, ou quand l'extrême gauche fait une fête, il associe des artistes. C'est-à-dire qu'il essaye de gagner un projet socialiste des gens qui ne sont pas des prolétaires. Ça, c'est un point fondamental. Donc j'insiste, ne pas confondre collaboration de classe et alliance de classe. Bien. Deuxième question qui est, à mon avis, fondamentale, celle-là. Des camarades ont parlé de délit de théorie, de socialisation de la théorie ou d'autogestion de la théorie, en essayant de trouver une contradiction entre le fait que, aujourd'hui, le marxisme est, pour une bonne part, fossilisé, mais qu'il y a des tentatives de renouveau, et qu'en tous les cas, dans les domaines qui nous concernent, il y a un problème d'élaboration théorique et même d'invention théorique tout court. Bien. Parce que du temps de Marx, bien évidemment, l'écologie ne se posait pas de la même manière. Encore que dans le Capital de Marx, on trouve des aspects d'écologie, au sens où Marx montre les effets du capitalisme sur l'environnement. Bien. Mais je dis, ce n'est pas une contradiction. Il est bien évident que la jeunesse, spontanément, ne trouvera pas, comme ça, par miracle, je pense qu'il ne faut pas être spontanéiste là-dessus, des éléments théoriques. Et là, on retrouve la question de l'alliance de classe. C'est-à-dire que dans ces domaines-là, il faut associer, bien, il faut associer les éléments progressistes, avec toutes les connotations, je sais bien, ambiguës, mais on peut en discuter, les éléments progressistes, voire révolutionnaires, parce que Dieu merci, j'en suis, enfin, j'essaye de l'être. Parmi les enseignants, il y a des militants révolutionnaires. Parmi les médecins, il y a des types qui ont mené une lutte courageuse pour l'avortement. Parmi les magistrats et les avocats, il y a des types qui défendent les révolutionnaires et qui mènent une bataille au syndicat de la magistrature contre les aspects les plus répressifs du droit bourgeois, etc., etc. Parmi les psychologues, parmi les sociologues, Dieu merci, la contestation en Nanterre a commencé aussi, c'est une chose qu'on devrait, disons, méditer, hein, a commencé dans les départements des sciences humaines, et encore aujourd'hui à Nanterre, à Vincennes. C'est-à-dire que le prolétariat, hein, qui, de par sa situation de classe, n'est, disons, n'a pas le temps, ou parfois même les capacités, assimiler toutes et d'un seul bloc les connaissances humaines, il s'agit dans une période transitoire d'associer ces spécialistes, entre guillemets, des connaissances, des sciences humaines, de la sociologie, spécialistes progressistes, bien, à un projet de transformation socialiste de la société. Il y a des psychanalystes révolutionnaires, des psychanalystes qui, par exemple, au Chili, en Argentine, luttent du côté des camarades militants révolutionnaires, bien, qui les planquent, bien, etc., etc. Vous pouvez tous prendre des exemples concrets de spécialistes qui, dès un moment donné, à vous faire un certificat médical, à essayer de vous dispenser pour l'armée, enfin, je ne sais pas. Bien. Autrement dit, il s'agit de faire en sorte, quant à la question de l'alliance de classe, au niveau théorique, que la jeunesse, les cadres ouvriers, les militants politiques, qui pour x, y, z raisons n'ont pas toujours le temps de lire une somme énorme de connaissances, parce que on a bien dit que le processus de la connaissance est absolument démentiel et cumulatif. On ne peut pas être encyclopédique aujourd'hui. D'associer ces spécialistes progressistes ou révolutionnaires même à un projet de transformation socialiste de la société. Et en plus, dans le domaine de la sociologie, critiquer l'organisation capitaliste du travail, critiquer les conditions lamentables de travail des immigrés, bien par exemple, critiquer le rapport Sudreau. Il faut un minimum de spécialisation, de connaissances, bon, au niveau du droit. Et en plus, ces militants-là, à partir d'un projet politique, et moi je suis tout à fait pour les gagner, un parti politique, ces militants progressistes, ces militants révolutionnaires, dans le domaine de leurs compétences, ces militants-là, leur faire travailler, comme le disait Lénine dans Que faire, leur faire travailler dans leur domaine spécifique, au niveau de l'architecture, au niveau du sport, au niveau de la santé, au niveau des psychiatries, à une contestation globale de l'institution bourgeoise, de manière à affaiblir, en fonction de ce que vient de dire Maurice et de ce que j'ai précisé, de manière à affaiblir, y compris sur le terrain de leur pratique quotidienne, qui un enseignant, qui un psychiatre, qui un médecin, qui un avocat, la domination de classe, la bourgeoisie. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, je terminerai là-dessus, la bourgeoisie est véritablement inquiète de voir que toutes les sociales qui jusqu'à présent étaient relativement pépères, les avocats, hein, les magistrats en général qui étaient côté du manche, les médecins qui en général c'était des beaux salauds, il faut bien le dire, bien, l'ordre des médecins, bien, se posent des questions et se mettent à lutter politiquement au compte du prolétariat. C'est ça ce qu'on essaie de voir aujourd'hui dans le domaine des nouvelles pratiques, même des urbanistes qui critiquent le projet bourgeois des Halles, la transformation urbanistique concentrationnaire de Paris, etc. Je dis ça, c'est excessivement important, il faut en tenir compte. Ou alors on tombe dans l'économisme, l'ouvriérisme le plus débile. Et je prévois ne pas confondre alliance de classe et collaboration de classe.
Est-ce que les camarades qui ont posé diverses questions s'estiment, sinon convaincus, du moins satisfaits? Apparemment pas. Mais...
c'est pas la question qu'il avait. Le risque est couru à l'heure actuelle et il y a des pas mal de signes à cela, c'est que les compétents, ceux que tu as décrits précédemment, les médecins, les avocats...
Les spécialistes.
Oui, mais enfin, dans le domaine de leurs compétences, les faire travailler au projet révolutionnaire, etc., prennent et confisquent effectivement le pouvoir. Alors, c'est là où il y a une réflexion à pousser également.
D'accord, mais je dis, les exemples chinois avec toutes les limites, bien. L'exemple chinois avec toutes les limites, je précise bien, a prouvé quand même qu'il y avait une tentative dans ce sens-là, que le mouvement révolutionnaire autant qu'aujourd'hui d'ailleurs on puisse encore parler de mouvement révolutionnaire à propos de la Chine, mais c'est notre paire de manches. Mais que toute une série de militants se posent la question de savoir comment effectivement faire en sorte que ce soit les travailleurs, les usagers, qui eux disposent du pouvoir, et donc y compris du savoir, dans la mesure où on admet que le savoir soit un pouvoir. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la démagogie. Il y a un aspect de division objective du travail, division sociale et technique du travail, et c'est de l'utopie, l'utopie au sens négatif du terme, de penser, faute d'un terme plus approprié, hein, de penser que du jour au lendemain, des gens pourront soigner intégralement d'autres gens. De penser que du jour au lendemain, des gens pourront faire ceci, telle ou telle pratique. C'est la réalité objective de classe. Nous sommes tous à déplorer la division de classe, la société, le fait qu'il y ait des dirigeants, des dirigés. Bien. C'est pour ça que le mot d'ordre d'autogestion socialiste est une chose importante. Bien. Mais y compris à l'IP, on a vu, si tu veux, que l'autogestion n'était pas immédiate, totale, translucide, transparente. Il y a quand même des gens qui en savent un peu plus, un peu moins, etc. Et ça, c'est une réalité objective, déplorable, y compris dans un parti politique, y compris au niveau de militants qui, théoriquement, devraient être sur le même théorie et de statut interne. Il y a des gens qui ont plutôt tendance à écrire et des gens qui ont plutôt tendance à renoter. C'est une tendance lamentable, certes. Il faut lutter contre ça, mais c'est un fait. Moi, je dis qu'il faut lutter contre ça.